Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale et au sommaire aujourd'hui. L'info du jour, un reportage lors du rassemblement des bibliothécaires des Champs Libres, il y aura de la musique, une interview juste avant la sortie de la bande dessinée Bataille sous la tente, une recommandation à l'occasion des 20 ans du collectif de soutien aux personnes sans papier et la série Le littoral autrement de la Corlab. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
L'info du jour, c'est le coup de gueule du syndicat SNEP-FSU dans l'Académie Bretagne. Académie dans laquelle, pour la rentrée 2022, il y a un besoin de 57 nouveaux professeurs de PS, éducation physique et sportive. Ces places sont vides en raison de départs en retraite, de mutations ou encore de départs vers l'enseignement supérieur. Pourtant, pour le moment, seuls 17 entrants sont prévus sur décision du rectorat de Rennes et du ministère de l'Éducation nationale. Le déficit restant sera en partie comblé par l'attribution de ces postes aux professeurs actuellement remplacés. Ce qui aboutira, je cite, mécaniquement à la réduction du vivier de remplacements titulaires disponibles pour les suppléances. Pour le syndicat, c'est un comble, puisque les services du rectorat eux-mêmes reconnaissent depuis 2019 qu'il faut avoir une vigilance particulière sur le remplacement en EPS. 25 postes de titulaires remplaçants avaient déjà été supprimés entre les rentrées 2019 et 2021. Alors le syndicat SNEP-FSU demande donc d'urgence au recteur et au ministre de procéder au rééquilibrage du nombre d'entrants en EPS dans l'académie, en le faisant passer de 17, comme c'est le cas actuellement, à 57 postes. Un syndicat qui relaie également les interpellations de collègues enseignants, pour beaucoup en colère, certains en pleurs, avec d'autres songeant à démissionner. Vous pouvez retrouver les actualités du syndicat en ligne sur leur site snepfsu-rennes.net. Reportage à présent lors du rassemblement des bibliothécaires des Champs Libres à Rennes, en grève depuis mai 2021, ça fait bientôt un an. Le motif de la colère, c'est la perte des repos compensatoires en contrepartie du travail les dimanches. La bibliothèque des Champs Libres est ainsi fermée les week-ends depuis bientôt un an et les employés déplorent une discussion au point mort avec la ville de Rennes. Ce jeudi matin, un invité de taille était à leur côté, le candidat à l'élection présidentielle Philippe Poutou, qui était venu rencontrer les fonctionnaires, écouter leurs revendications et discuter des modes d'action pour faire évoluer la situation. Reportage signé Marin Laventure, qui est volontaire en service civique.
Vous êtes combien à peu près, une centaine de salariés à la bibliothèque, c'est ça?
Ouais, 75 titulaires à 10.
Ah oui, bien. Après, il y a ce qu'on appelle les contractuels,
ouais, c'est ça.
Là, ils vont aller faire trembler la mairie de Rennes.
Oui,
oui. Ouais, mais...
Comment faudrait...
Les idées, vous les avez aussi. C'est, vous savez, il faut être nombreux.
Il
faut qu'ils sentent que ça peut s'étendre, que ça peut être contagieux, tout ça. Et que...
Bonjour, moi je m'appelle Éric de Rouenet, je suis délégué CGT à la Bibliothèque des Champs Libres. On est aujourd'hui en lutte, en conflit depuis plus de 10 mois par rapport à deux choses. D'abord, il y a eu une suppression pour tous les agents de 3 jours et demi de congé qui fait suite à une loi de transformation de la fonction publique où tous les congés dits extra-légaux qui dépassaient les 25 jours ont été supprimés. Pourtant, ces congés qui étaient là dans les collectivités, ils compensaient en fait les bas salaires des agents. Ça a été supprimé dans notre mairie socialiste de façon univoque, sans aucune compensation. Mais c'est rajouté à ça la suppression de tous les repos compensateurs pour le travail du week-end. C'est-à-dire qu'avant, pour tous les agents qui travaillaient le week-end, le samedi, le dimanche, ils avaient le choix entre avoir une compensation financière ou une compensation horaire, une bonification horaire, qu'on appelle les repos compensateurs. Cette possibilité-là a été supprimée et aujourd'hui, pour les agents, on leur propose uniquement une compensation qui est 15 euros le samedi et 100 euros le dimanche. Chez nous, où le conflit s'est cristallisé, c'est parce qu'à côté, on a supprimé aussi une prime de 1000 euros pour les agents des Champs Libres, une prime annuelle de contrainte horaire, ce qui fait que les agents perdent 10 jours de congé repos par an. La lutte, elle est aussi pour les agents des bibliothèques municipales, des piscines, des agents des EHPAD, tous les agents en fait qui travaillent le week-end, qui ont vu leurs conditions dégradées. Les agents, puisqu'on est des agents de la fonction publique, choisissaient en majorité, à plus de 80%, les repos compensateurs. La discussion est quand même très difficile avec l'administration, avec notre employeur. Ça fait donc plus de 10 ans, plus de 10 mois que le mouvement est là, que les agents font grève tous les week-ends de façon répétée pour obtenir une compensation de la perte subie. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver d'accord juste. Les agents ne trouvent pas que ce qui est proposé, mis sur la table, est juste. Ce qui est proposé actuellement pour les agents des champs libres, c'est la possibilité de faire 4 dimanches supplémentaires, en heures supplémentaires, qui permettront de générer des repos compensateurs. Mais nous, on trouve ça totalement insuffisant. Et pour les bibliothèques de quartier, par exemple, ce qui est proposé, c'est de passer à 1 samedi sur 4. Mais les agents ne s'y retrouvent pas non plus. Dans une grande majorité, ce qu'on a vu, c'est quand même un soutien des usagers. J'ai apporté d'ailleurs ici, on a plus de 1500 signatures qu'on a fait signer, plus des cartes qui sont envoyées régulièrement à la maire. Non, dans l'ensemble, les usagers nous comprennent notre mouvement et nous soutiennent. On aimerait aussi, comme eux, que ça s'arrête, mais trouver une solution par rapport à ce recul social là qui nous est imposé.
La semaine dernière, il y avait Nos Futurs au Champ Libre, donc une semaine avec des conférences, des rencontres, etc. Et j'ai pu voir que le mercredi, donc, il y avait justement un mouvement de grève devant les Champs Libres, des bibliothécaires. Et pourtant, la bibliothèque était toujours ouverte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la grève, c'est même plus un moyen de pression ? Ça veut dire quoi pour vous ?
Alors oui, effectivement, notre directrice des champs libres, Corinne Poulain, a décidé d'ouvrir les champs libres, d'ouvrir la bibliothèque malgré la grève, d'ouvrir sans personnel. Nous, on déplore cette décision qui a été prise, même si elle a... Alors, elle s'en est expliquée après. Demain, elle souhaite nous rencontrer pour reparler de cette situation-là. Elle a indiqué que cette situation était exceptionnelle et que ça ne se reproduirait plus. On l'espère bien, mais effectivement, on le déplore. Quelque chose que je souhaitais rajouter, c'est que j'ai dit que moi, je suis donc délégué CGT. Ce mouvement, il est soutenu par une intersyndicale, donc CGT, FO et Sud, qui soutient tous les agents en ce moment face à la perte de ces repos compensateurs.
Moi, la logique du truc, c'est qu'on est géré par des gens qui ne croient pas au service public. Ils considèrent qu'on ne sait pas travailler, que ce qu'on fait, c'est pas bien, qu'on coûte trop cher, qu'on perd les savoir-faire, qu'on perd la motivation. En fait, c'est cette logique-là qui est... Là, il y a un problème aujourd'hui sur le temps qu'on perd, mais les congés qu'on perd. Mais la logique, elle restera après.
C'est là qu'on voit que la gauche, elle a complètement abandonné les idées de gauche. Quoi. C'est, elle est intégrée à l'ultralibéralisme. Les services publics, ils n'en parlent jamais. Pour eux, un DSP, ça suffit. Quoi. Hein, les délégations de services publics, le privé le fait, ils peuvent très bien le faire. Même, ils nous disent à la mairie de Bordeaux. En fait, la compétence aujourd'hui, elle est du côté du privé. Donc, autant profiter de la compétence du privé. Donc, ils justifient les DSP au nom du manque de savoir-faire du service public, enfin, de la commune.
Après, il faut trouver... garder le moral et trouver la force de continuer à résister.
On est toujours là.
La légitimité, elle est bien là. Quoi. C'est qu'il faut surtout pas caner. Quoi, en fait.
Je vais rester le plus discret possible sur mon identité parce que je suis fonctionnaire territorial et étant fonctionnaire, je suis soumis au droit de réserve. On n'est pas autorisé, ce qui est normal d'ailleurs, à avoir trop de commentaires négatifs sur notre tutelle. Et ça implique aussi que pour la promotion du mouvement, c'est difficile. Évidemment, c'est extrêmement difficile pour nous de parler de ça et de le rendre visible. Il y a une chose que je voudrais quand même dire par rapport à nos interlocuteurs en face, à notre tutelle, c'est qu'on a l'impression quand même tout de même d'être face à des gens qui sont sans complexe, en fait. Puisque là, on parle tout de même de services publics. Public. On a vu émerger à cet automne des acteurs de notre tutelle qui ont formé un think tank qui s'appelle Le Sens du Service Public. Alors vous pouvez taper sur Google, hein, un think tank plein de promesses, avec un programme qui a alerté les candidats à la présidentielle sur le sens du service public. Donc ça, c'est une chose, c'est très bien en soi, c'est tout à fait louable. Sauf qu'à côté de cette vitrine officielle, ben, il y a ce service public qu'on démonte pierre à pierre. À côté, nous, on souffre depuis 10 mois. On a des problèmes de sommeil dans la métropole. Alors, qu'est-ce que c'est que cette schizophrénie, en fait, de la part de nos élus, de notre tutelle ? C'est tout à fait curieux. D'avoir d'un côté une façade, un discours qui promeut avec un bel enrobage de belles paroles, un intérêt pour le service public. Et puis à côté, c'est difficile de retrouver une motivation pour un métier qu'on aime. On aime bien assurer un service public essentiel à notre sens et on nous met des bâtons dans les roues. Donc c'est un peu difficile à avaler et c'est aussi ce qui ironiquement nous redonne de l'allant puisqu'on n'accepte pas cet état de fait et c'est insupportable en fait d'être traité comme ça. Donc on va continuer et puis on lâchera pas nos revendications.
Est-ce que vous sentez que les usagers sont au courant de vos revendications
ou... Ah oui, ils sont pour la plupart au courant et pour la plupart ils nous soutiennent aussi. Donc ça il faut le signaler. Oui, ils nous soutiennent.
Tout à l'heure je vous ai entendu parler des médias qui ne couvrent pas assez votre.
Alors ils vont un peu dans le sens de notre tutelle. Il y a le Télégramme qui de temps en temps fait des articles sur notre mouvement. Et il y a eu un bel article sur Alter Info récemment. Mais en dehors de ça, on a peu de visibilité, forcément. Et donc tout ce qu'on peut faire, c'est relayer le mouvement à nos usagers et les faire interpeller, nos élus. On a des idées, oui, on prépare quelques surprises pour la collectivité.
J'ai 24 ans, je travaille à la bibliothèque des Champs Libres depuis le mois de septembre. Je suis contractuel à mi-temps, donc j'ai un contrat court qui va se renouveler, mais qu'un certain nombre de fois. Et je travaille donc à la fois en service public et à moitié dans les bureaux. J'ai un statut un peu plus précaire que le statut de fonctionnaire des autres collègues. Et effectivement, un truc qui a été dit et qui m'a surpris, parce que t'es pas au courant de ce mouvement social, parce qu'effectivement, il est très très peu relayé et médiatisé, c'est que moi, quand je suis arrivé à Rennes, j'arrivais dans une mairie socialiste qui se dit proche de ses services publics. Et je suis arrivé, j'ai vu la situation du conflit social, et j'ai compris qu'en fait, on est face à une mairie, après avoir accepté une réforme d'un gouvernement de droite, et aller encore plus loin dans la casse sociale et que le gouvernement. Donc, quand à côté la maire va défendre son bilan social et sa défense des services publics et qu'on voit ce qui se passe ici et à quel point elle ne répond pas depuis maintenant 10 mois, ça fait se sentir assez peu respecté par eux. Je pense que ce qui serait important, ça serait de montrer que les usagers nous soutiennent et peut-être de montrer avec des symboles plus forts que les pétitions qu'on fait remplir. On a quand même une quarantaine de pages de signatures d'usagers, donc voilà, on sait qu'on est soutenu, on n'en doute pas. Les usagers veulent bénéficier d'un service public de qualité, et que nous, on veut leur proposer ça aussi, et que qu'ensemble, on va réussir.
Here comes my baby in my arms. I'll stay where you stay, leave when you leave, hear what you say. Forever, honey, in my arms. I'll learn what you learn, leave when you leave, when you return. Here comes my baby in my arms. I'll know what you know, sing what you sing, play what you play.
C'était April March avec le titre Baby, une nouveauté musicale sélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur, ici à Canal B, que vous êtes en train d'écouter, branché sur le 94.0. On poursuit avec l'interview du jour. Yannick Orveillon, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez au nord de Rennes, vous êtes l'auteur avec Benoît Pinchon de Bataille sous la tente, découvrez 10 grandes batailles décalées, c'est le nom complet de l'ouvrage et c'est paru. Eh bien en fait non, ça va paraître le 1er avril aux éditions Pierre de Taillac, on est en exclusivité aujourd'hui. On commence par vous présenter tous les deux. Vous Yannick, vous êtes dessinateur, réalisateur également, et Benoît, lui c'est l'écriture, on va dire, c'est une passion.
Ouais, c'est ça. Lui, il a un métier à côté, mais il écrit depuis longtemps et il a un style que je trouve assez chouette.
Assez percutant et drôle, on va y arriver. Ce qui vous réunit, c'est la reconstitution, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, la reconstitution.
Eh ben, donc, ouais, la reconstitution historique, on choisit une période voilà, qui va nous intéresser, on s'y penche, on fait des recherches, après bah, ça peut aller du costume à la cuisine, enfin, il y a plein d'aspects, et c'est une manière d'aborder l'histoire. Il y en a qui appellent ça l'histoire vivante, c'est aussi une manière de voir le truc, quoi.
Ce sont des groupes de passionnés réunis souvent en association, en collectif.
C'est ça.
Et donc vous êtes le président d'une association de reconstitution en Ille-et-Vilaine qui s'appelle Milites Paganses et qui couvre quelle période en
Le 12e siècle.
Ok. Et donc ça veut dire que vous êtes amené à vous retrouver plutôt de façon informelle. Il y a aussi une dimension publique lors d'événements.
Ouais, c'est ça. Soit c'est des événements privés off, soit c'est effectivement c'est des présentations publiques avec. Bah, on peut bosser avec des musées, où les gens peut-être connaissent les fêtes médiévales, des choses comme ça.
Avec Benoît Pinchon, c'est donc ce qui vous réunit, la reconstitution. Ouais. Vous vous êtes retrouvés sur des événements. À quel moment vous vous lancez ensemble dans ce projet d'ouvrage ?
Avec Benoît, ça fait un moment qu'on se connaît. Quand moi j'ai commencé à écrire, enfin à lancer ce projet-là, au départ qui était un projet de court-métrage, bah, en fait sa gouaille naturelle m'intéressait. Je voulais le faire jouer dedans, en fait. Et je me disais, bah voilà, ce type, il va avoir le répondant et la gouaille
pour
donner vie au personnage. Et lui, ça, l'idée, il trouvait ça plutôt marrant. Et je lui ai dit, bah écoute, si t'as des idées, franchement, écris, n'hésite pas. Et ça n'a pas traîné, il m'a envoyé un scénario et qui était carrément mieux que le mien. Donc à partir de là, bah, lui s'est pris au jeu. Alors le projet de court-métrage, enfin, c'était des web-séries, ça n'a pas donné grand-chose. Et j'avais laissé ça un peu sous le tapis pendant quelques temps. Et quand j'ai un peu arrêté de me lancer dans la réalisation et que je cherchais un peu autre chose à faire, et je me suis rappelé qu'il y a 15 ans, je dessinais, j'ai ressorti mes crayons pour voir s'il me restait 2-3 trucs, ce projet-là me paraissait assez facile et simple à remettre en route, et j'avais en plus envie de... On avait quelques scénarios d'avance, enfin, c'était un peu projeté, quoi.
Est-ce que vous êtes remis au dessin comme certains ont repris d'autres passions pendant les confinements, notamment ?
Eh ben non, c'était j'ai commencé avant. Non, ça n'a pas grand-chose à voir avec le confinement.
Ok. Et donc, le projet de court-métrage devient un projet de bande dessinée, avec un angle original dans cet ouvrage, c'est de raconter les grandes batailles vues depuis la tente où les soldats ont tendance à s'ennuyer à l'intérieur. D'où est-ce qu'elle vient, l'idée ?
Eh ben, en fait, c'est aussi des contraintes techniques quand je voulais faire ça en court-métrage. C'était en discutant avec les copains de l'asso Scénar Optique avec qui je faisais les court-métrages à l'époque. Il y avait quand même le côté, on veut faire des films historiques, enfin, c'est des choses qui nous plaisent, et en même temps, on avait pas un rond, et on voulait trouver un moyen de faire ça de manière économique, et c'est une manière de raconter les choses qui nous faisaient rire à l'époque. Voilà, pas parler forcément de généraux glorieux ou de choses comme ça, mais plutôt imaginer que la bataille se passe à l'extérieur et qu'il y a des types qui en parlent un peu cachés ou voilà.
C'est peut-être un esprit qu'on retrouve dans une série comme Kaamelott, un peu de voir ce qui se passe à côté.
Carrément, je pense qu'il faut qu'on soit lucide sur le fait que Kaamelott a ouvert toute une palette d'humour qui était peut-être préexistante, mais en tout cas pas aussi populaire, et je me suis pas directement inspiré de ça, mais je peux pas renier le fait que ils ont ouvert la porte, quoi.
Et notamment dans le fait d'avoir des dialogues, mais avec un langage, on va dire, d'aujourd'hui, un peu anachronique. Là, c'est ce qu'on retrouve avec un peu un esprit similaire. Vous avez donc choisi 10 batailles de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe en France, mais aussi ailleurs. Les plus connues, ce sont sans doute Waterloo et la bataille de Normandie. Moi, il y a des batailles que j'ai découvertes en parcourant les pages de ce livre. Vous les avez choisies comment, ces 10 batailles ?
On a essayé de trouver un compromis entre un imaginaire, de surfer sur un imaginaire que les gens ont déjà, et en même temps d'amener aussi des choses qu'ils ne connaissaient pas forcément. Voilà, c'était de trouver un petit intermédiaire entre les deux, quoi. De pas que parler de trucs dont ils n'avaient jamais entendu parler, mais non plus pas que enfoncer des portes ouvertes. Donc, et aussi, soit il y a des batailles qui sont déjà un peu rigolotes en soi, ou en tout cas il y a des anecdotes qui nous paraissaient propices pour faire des blagues.
Par exemple, on donne un exemple.
Par exemple, le combat des 30, le contexte est assez... C'est juste des gens qui s'ennuient, parce que c'est la trêve, et du coup ils s'arrangent pour se taper dessus. La quatrième croisade, c'est une grosse croisade, mais qui s'arrête à Constantinople, qui est une ville chrétienne, pour la piller. Des trucs un peu cocasses, enfin cocasses, je veux dire c'est cocasse parce que ça s'est passé il y a des centaines d'années, quoi. Mais qui se prêtaient à de l'humour, ou alors genre Waterloo, c'est pas très drôle, mais trouver un angle un peu justement, un peu en décalage pour pouvoir la traiter de manière humoristique.
Le décalage, il se joue surtout dans le langage, avec donc une bande dessinée qui joue la carte de l'humour. Est-ce que ça peut être difficile de défendre un projet comme celui-ci de bande dessinée qui lie histoire et humour ? L'histoire, c'est souvent raconté de façon peut-être un peu trop sérieuse ?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas que nous à bosser là-dessus quand même en ce moment. Enfin, je pense que la période s'y prête. Il y a pas mal d'ouvrages, je pense, qui font ça. Par contre, c'est trouver les aboutissements pour ça, quoi, qui n'était pas évident. On a eu de la chance que l'éditeur Pierre de Taillac, mais direct, il nous a rappelé directement pour nous dire qu'il était emballé, il nous a toujours soutenu, il lui trouvait ça tout le temps hyper drôle. Enfin, c'était très très agréable de bosser avec lui, et on avait plutôt de la chance à ce niveau-là, quoi.
On précise qu'autour des batailles qui se jouent sous la tente, il y a quand même un aspect très didactique avec le contexte et les éléments forts des batailles qui sont rappelés.
En fait, moi, je me suis rendu compte que c'est une des manières dont j'avais, depuis que je suis enfant, un peu abordé l'histoire à partir des films, des bandes dessinées ou des romans. La fiction m'a toujours permis, moi, de rattacher après des éléments précis et concrets. Et c'est un peu ce que j'avais envie de faire dans cette BD-là, c'est qu'on fait une blague, l'important c'est la blague, mais il y a une page avant, une page après, une carte, c'est succinct, mais si les gens ils veulent repartir avec quelque chose, ils peuvent... moi, c'est comme ça que j'aime bien faire l'histoire, quoi.
Allez, on s'arrête sur l'épisode local, le combat des 30, que moi je ne connaissais pas. On est en 1351, près de Ploërmel, dans l'actuel Morbihan, et la guerre de succession de Bretagne voit s'affronter les partisans des Montfort, eux soutenus par l'Angleterre, et les partisans de Charles de Blois, qui sont eux soutenus par la France. Et à partir de là, vous imaginez un épisode on l'évoquait en un mot, mais de gens qui cherchent des prétextes pour se taper dessus, ça leur manque.
Bah moi j'ai découvert ce truc-là, c'est assez connu en Bretagne, le combat des 30, parce que c'est hyper symbolique de la chevalerie. Voilà, c'est 30 chevaliers des deux camps qui s'affrontent en race campagne. Mais bah effectivement, ils se sont mis d'accord, on est vraiment en pleine trêve de la guerre de succession de Bretagne. Et ils s'emmerdent les gars, et du coup bah, ils cherchent un prétexte. Alors il y a vaguement un prétexte historique dont on parle un peu dans l'épisode, mais vraiment c'est parce que les chevaliers c'est un peu des gros bourrins, et ils préfèrent se taper dessus.
Et de cet épisode on apprend quand même quelque chose, on en retient une devise: bois ton sang, Beaumanoir. On donne le contexte, prononcé par qui?
Et ben donc c'est Jean de Beaumanoir qui est un des grands personnages de cet événement là qui participe, et il est assoiffé, il demande à boire à un chevalier à côté. Et le mec lui répond: bois ton sang, Beaumanoir, la soif te passera. Et c'est devenu la devise de la famille Beaumanoir, qui est, pour les Bretons, souvent, on connaît un petit peu ce truc-là. Voilà.
Bataille sous la tente, découvrez 10 grandes batailles décalées. C'est donc un ouvrage qui raconte l'histoire des anonymes, des râleurs, des déserteurs et des opportunistes, des militaires. Et s'il fallait choisir un anonyme qui vous a soit bien fait rire et qu'on découvre là dans cet ouvrage, vous choisiriez lequel?
Moi, c'est un épisode qui a écrit Benoît sur le chemin des dames. Je sais que c'est pas celui que lui préfère, mais moi, je l'aime vraiment bien. En fait, c'est un type qui est jugé pour vol et pour insulte à un supérieur. Je trouve qu'il a trouvé un bon compromis. Moi, je le trouve très, très drôle, cet épisode. Mais il parle d'un truc assez grave, des jugements de soldats pendant la Première Guerre mondiale et potentiellement des exécutions qui a eu de manière assez massive quand même. Voilà, moi je crois que c'est celui-là que je préfère en personnage, parce que c'est très très drôle, mais ça parle de quelque chose qui est pas si vieux quand même et qui est un petit peu tragique. Voilà.
Donc le chemin des dames, un des épisodes à retrouver dans cet ouvrage. Je vous représente Yannick Orveillon, vous êtes presque rennais, vous habitez au nord de Rennes, vous êtes l'auteur avec Benoît Pinchon de Bataille sous la tente, découvrez 10 grandes batailles décalées, et c'est à paraître le vendredi 1er avril aux éditions Pierre de Taillac. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur une page Facebook dédiée qui s'appelle Bataille sous la tente, et il y a également le site de l'éditeur éditionpierredetaillac.com pour retrouver cet ouvrage qui coûte 14,90€. Merci beaucoup.
Merci. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling.
Your heart with mine.
Village, parlait Crystal Fighters sur Canal B. Vous êtes dans l'arène, c'est l'émission d'information. Et on poursuit avec la recommandation du jour. C'est le programme du collectif de soutien aux personnes sans papiers de Rennes qui fête ses 20 ans. Le lancement, c'était en décembre 2001, quelques mois avant la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Depuis, le collectif a organisé des centaines d'actions pour dénoncer toujours les politiques migratoires et leur impact sur les personnes sans papiers. Et leur leitmotiv, eh bien c'est le suivant, la régularisation de toutes les personnes sans papiers. Pour marquer le coup à l'occasion de l'anniversaire du collectif, trois rendez-vous à noter. Ce jeudi 31 mars à 18h30, on va en courant à la Maison internationale de Rennes pour une conférence débat. Les politiques migratoires, l'État contre les étrangers, c'est le titre de la conférence qui laissera la parole à Karine Parot, une enseignante-chercheuse à l'université de Cergy, membre du groupe d'information et de soutien des immigrés et auteur de ce livre « Carte blanche, l'État contre les étrangers ». Vendredi 1er avril à 18h30, cette fois rendez-vous au centre social Carrefour 18 dans le quartier du Blône à Rennes, où la parole sera laissée aux organisations solidaires des sans-papiers de Rennes, et elles sont nombreuses, on peut en citer quelques-unes, la CIMAD, le groupe logement du 14 octobre, d'ici et d'ailleurs, le MRAP, mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples, ou encore Utopia 56, et bien sûr un toit c'est un droit. Enfin, troisième et dernier événement, c'est samedi 2 avril à partir de 10h sur le marché du Blône, cette fois sous forme de manifestation pour crier ce message « Vive l'immigration ». Le départ est donné à 10h à partir donc du marché du Blône, avec une arrivée prévue sur le marché des Lys. Pour plus d'infos, il y a un site internet sp35.org ainsi que la page Facebook du collectif de soutien aux personnes sans papiers de Rennes. Allez, on poursuit en chronique. Le centre de rétention administrative, c'est une prison qui ne dit pas son nom. Un lieu de privation de liberté dans lequel les personnes étrangères sont enfermées en vue de leur expulsion du territoire français. Des centres de rétention, il y en a 24 en France et la course à l'enfermement n'est pas prête de s'arrêter. Le nombre de places dans les centres de rétention ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, deux centres sont actuellement en construction, près d'Orléans et à Bordeaux. Le centre de rétention de Rennes, il se trouve juste à côté de l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande, en face du parc des expositions. Et si vous y allez, vous pourrez apercevoir les grilles du centre, ses barbelés et ses caméras. Il peut y avoir jusqu'à 56 personnes à l'intérieur. Il y a 46 places pour les hommes, 6 pour les femmes et 4 pour une famille. Derrière les grilles, donc, peuvent être enfermés des hommes, des femmes et même des enfants qui accompagnent leurs parents aux nationalités et aux parcours multiples. Aujourd'hui, ce jeudi, il y a 39 personnes enfermées au centre, dont deux femmes. Dans la chronique à suivre, Hélène nous donne à entendre à quoi ressemble leur quotidien d'intervenant juridique pour la CIMAD.
Un jeudi de mars, j'arrive dans le bureau vers 9h. Avant d'entrer dans notre bureau, j'y récupère la feuille du jour qui liste les personnes présentes au CRA. Je vais ensuite la comparer avec la liste d'hier afin de voir si des personnes ont été libérées ou expulsées et si de nouvelles personnes sont arrivées au CRA. Je constate que 4 personnes sont arrivées depuis hier. Une de ces personnes est déjà inscrite comme devant être expulsée ce jour. Régulièrement, la préfecture enferme des personnes pour des durées très courtes lorsqu'elle sait déjà qu'un vol est prévu, empêchant ainsi toute possibilité de contester les décisions administratives. Ces personnes ne rencontrent généralement pas la CIMAD ni le juge qui évalue la légalité du placement en rétention. Dans notre jargon, on appelle ça des placements de confort. Confort pour l'administration, bien sûr, car elle trouve ça pratique d'avoir la personne sous la main en l'enfermant avant de lui faire prendre l'avion alors qu'elle sait parfaitement où la trouver puisqu'elle l'a interpellée quelques heures avant. À son arrivée, peu de temps après moi, ma collègue constate qu'un monsieur très malade pour qui nous avions fait un recours n'a pas été libéré par la cour d'appel la veille. Suite à un coup de téléphone avec l'avocate de permanence plus tard dans la journée, nous apprendrons que la juge a refusé d'examiner les documents médicaux de monsieur, pourtant atteint d'une pathologie lourde. Il n'a toujours pas été reçu par le médecin du centre alors qu'il est ici depuis plusieurs jours. On a l'impression que tout le monde se renvoie la balle et qu'au final, la personne va être expulsée vers un pays où elle ne pourra probablement pas poursuivre ses soins. Ma collègue constate aussi qu'un jeune homme a été condamné hier car il a refusé de réaliser un test PCR en vue de son expulsion. Il a été déféré à la maison d'arrêt de Rennes-Vezin où il sera enfermé pendant 2 mois. En plus, le juge l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français, une décision qui empêche toute démarche de régularisation. À 10h, ma collègue et moi sortons dans ce qu'on appelle la zone de vie. Entre 9h et 11h, nous avons plus de chances d'y croiser les personnes enfermées car les bâtiments où ils dorment sont fermés pendant le ménage. Nous allons voir un monsieur en France depuis 10 ans, suivi par une avocate qui a certaines questions à lui poser sur ses liens avec sa famille. Monsieur nous indique qu'il a des liens très forts avec sa famille qui se trouve en France, notamment avec sa mère et sa sœur qui sont venues lui rendre visite ici au CRA. Comme nous ne sommes pas dans l'urgence ce matin, ma collègue discute ensuite avec un monsieur de nationalité algérienne au CRA depuis 2 semaines. Monsieur sait qu'il ne sera pas expulsé car depuis le début de la crise sanitaire, il n'y a quasiment aucun laissez-passer délivré par les autorités algériennes, ni de vol prévu vers ce pays. Pourtant, les enfermements se poursuivent. Monsieur reste calme et sait qu'il doit attendre 2 mois, au bout desquels les juges acceptent de libérer les ressortissants algériens. À la fin de notre tour quotidien de la zone de vie, nous recevons plusieurs personnes dans notre bureau. Ma collègue reçoit le monsieur très malade pour discuter avec lui de l'audience devant la cour d'appel la veille, avec l'aide d'un interprète par téléphone. Elle lui explique que désormais, seul le médecin du centre est en mesure de faire évoluer la situation. De mon côté, je reçois un monsieur qui est arrivé au centre la veille et dont les délais de recours expirent dans l'après-midi. Une autre personne retenue fait la traduction. Nous récupérons les documents utiles pour l'audience sur le téléphone de monsieur. Il reste dans le bureau jusqu'à midi, heure à laquelle les personnes retenues doivent aller déjeuner. Pendant ce temps, ma collègue a reçu une deuxième personne, en France depuis presque 10 ans. Les larmes lui montent aux yeux. Il avait commencé des démarches et envisage de les finaliser s'il est libéré par le juge. Vers midi, un député qui était en visite au centre de rétention ce jour, accompagné d'une journaliste, vient nous voir. Il n'a pas le temps de discuter avec nous, mais nous reparlerons plus tard. Il est utile de préciser que ce droit de visite octroyé aux parlementaires n'est pas beaucoup utilisé. La dernière visite date du mois de mai 2021. Vers 12h30, pause déjeuner avec ma collègue. À notre retour, nous avons plusieurs personnes à recevoir en entretien arrivées la veille. Les entretiens se suivent mais ne se ressemblent pas. Je reçois un Albanais qui sort de prison. Ce monsieur est d'accord pour repartir dans son pays d'origine mais ne veut pas rester enfermé ici. La loi prévoit pourtant que le placement en rétention n'est prévu que lorsqu'il existe des risques de fuite. Ma collègue reçoit de son côté plusieurs personnes, dont un jeune homme arménien qui a été interpellé lors d'un contrôle routier. Ce monsieur lui explique qu'il est en relation avec une femme depuis plusieurs années, qu'ils envisagent de se marier et qu'elle est enceinte de 4 mois. Ses deux parents sont aussi en France, en cours de demande d'asile. Monsieur ne comprend pas pourquoi il est enfermé alors qu'il n'a commis aucun crime ni délit. Ma collègue lui explique que l'enfermement ici, c'est en vue d'une expulsion. Dur à expliquer. Enfermé pour des papiers, c'est absurde. Et la CIMA demande d'ailleurs la fermeture des centres de rétention. Fin de la journée, vers 17h30, où nous laissons des personnes au parcours multiple avec une crainte, celle d'une expulsion forcée vers leur pays d'origine.
Allez, on termine avec la série de reportages Le Littoral Autrement de la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Cette semaine, on part dans l'archipel des Glénans à la rencontre de l'association du même nom. Et cette association, eh bien, c'est la première école de voile en Europe. 4e épisode, c'est parti.
Le Littoral Autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
L'association des Glénans a toujours travaillé à ce que la voile soit accessible au plus grand nombre. Elle a notamment rendu la pratique accessible aux moins fortunés en construisant des bateaux au moindre coût. Mais dès le début, l'association a souhaité toucher d'autres publics. Des publics qui étaient éloignés de la mer pour des raisons différentes que l'argent. Les Glénans ont ainsi accueilli des personnes en situation de handicap et notamment des personnes malvoyantes. Mais parmi les publics éloignés de la mer, il y a aussi ceux qui habitent juste à côté. Au sein du programme Marine Academy, les participants découvrent souvent le milieu marin alors qu'ils vivent sur le littoral. Ils découvrent surtout les opportunités que ce milieu peut leur offrir. Pauline Sand travaille au centre de formation des Glénans. Elle coordonne notamment le programme Marine Academy.
Alors la Marine Academy a été créée il y a 10 ans suite à une concertation qui a eu lieu entre la région Bretagne et différents organismes d'accompagnement des demandeurs d'emploi. L'objectif était de trouver un cursus qui permette d'améliorer la lisibilité des métiers de la mer mais aussi des cursus qui amènent à ces différents métiers parce que et les cursus et les métiers étaient quand même assez spécifique et demander d'avoir une bonne connaissance pour pouvoir parler avec pertinence des différents métiers. Donc ils ont créé ce cycle qui dure 3 mois et qui a vraiment pour objectif premier d'acculturer les personnes au milieu, que ce soit nautique, naval ou maritime, pour leur permettre derrière d'avoir une lecture suffisamment claire des métiers pour pouvoir s'orienter dans ces métiers.
David ?
Oui ?
Tu restes... t'es bien là ?
Je suis bien,
ouais. Ok, tu cries très fort si t'as besoin d'aide.
Bonjour.
Mais venir à bord ?
Ah ouais, carrément.
Je rapproche un petit peu. Normalement, la meilleure position, ça va être sur les haubans à l'avant.
En fait, l'idée, c'est que les personnes viennent s'investir pendant ces 3 mois dans cette formation et cette envie de découvrir les différents métiers. Parce qu'en fait, ça va être très varié, les activités vont être très variées dans Marine Academy. On va être beaucoup sur le terrain, on va être beaucoup dans de la pratique. Donc, dès que c'est possible, on va aller manipuler les différents savoir-faire, on va aller mettre les mains, que ce soit dans le poisson, que ce soit dans l'eau à 15 degrés et dans le gasoil. Donc, il faut que les personnes aient cette curiosité-là et vraiment envie de s'investir dans cette formation, puisque le programme est... et assez, assez dense.
Donc là, on est sur la partie avant, avec les voiles d'avant. Donc le, tout à l'avant, il y a le clin-foc, le foc, la trinquette.
Pendant Marine Academy, on va avoir toute une partie découverte des métiers, découverte des cursus. Donc en général, on a 2 jours par semaine où on va aller visiter un centre de formation. Ce centre de formation va nous permettre de réaliser les ateliers savoir-faire métier, où on va, comme je le disais tout à l'heure, manipuler les différents savoir-faire et puis mettre un petit peu les mains dans la patouille. Et suite à ça, on va rencontrer des professionnels. Donc on va aller la semaine pêche visiter un chalutier, la semaine maintenance et industrie visiter des chantiers, sur le nautique visiter des écoles de voile. Et l'objectif, c'est vraiment, nous on est, on organise la formation, on est un peu le fil rouge de cette formation, mais les vrais acteurs, c'est les professionnels qu'on va rencontrer qui vont parler aux stagiaires de leur quotidien, de leur métier, de ce qu'ils aiment, des contraintes, du rythme, de la rémunération, etc. Parallèlement à la découverte des métiers et des cursus, on va avoir une partie acquisition des prérequis aux entrées aux formations. L'objectif, c'est que les stagiaires sortent de Marine Academy armés pour rentrer dans n'importe laquelle des formations qualifiantes. Donc on va valider le PSC1. Tous les vendredis matin, ils sont en cours de permis côtier.
Sur le ponton là-bas.
On a une espèce de petite vie en collectivité qui va se créer quand même sur ces 3 mois, qui permet aussi à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, éloignées de la formation, éloignées peut-être d'une vie sociale depuis un moment, de remettre le pied à l'étrier dans une ambiance qui est quand même assez conviviale.
L'association des Glénans recherche et invente des outils pour que la voile soit accessible à tous les publics et donc accessible au plus grand nombre. Guillaume Voisard travaille au développement et à l'innovation de l'école de voile. Il est moniteur du programme sport et santé au Glénans.
L'évolution de la loi avec une loi de modernisation de santé qui a ouvert un petit peu le champ du sport vers le médical nous a permis de, bah, d'entreprendre, en effet d'entreprendre et donc d'accueillir des gens qui ont des maladies de longue durée et puis leur proposer de venir pratiquer avec nous dans le cadre de leur parcours de soins.
Est-ce que depuis la dernière fois les douleurs, tout ça c'est bon ? Il y a pas de... Non ?
Alors nous, on ne s'adresse pas directement aux bénéficiaires de cette action-là. C'est vraiment le médecin en fait qui flèche vers nous. Donc c'est d'abord au médecin de savoir si jamais c'est quelque chose qui est bon pour son patient. Et puis avant que ce patient puisse devenir un sportif, même s'il était déjà avant. Quand je dis devenir un sportif, c'est quand il peut rentrer dans le programme qu'on propose. Donc le parcours patient, il est assez clair en fait. Hein, vous venez voir votre médecin et qui va vous flécher vers l'activité. Et entre-temps, vous allez passer devant un éducateur en activité physique adaptée qui va, en gros, donner aussi avec le médecin les limitations. Donc nous, en fait, en tant qu'éducateur sportif, on n'est pas forcément au courant de la maladie, mais on est au courant des limitations. Donc là où on ne doit pas aller avec la personne, quoi. Voilà, donc ça nous permet de définir un programme. On n'a pas le secret médical, on rentre pas dans le... on va dire dans l'intimité du parcours entre le médecin et le patient, mais par contre nous on est une aide à côté, on a un petit plus aussi dans le parcours de soins, et puis on vit, pour certains ça, ce petit plus en fait il est assez révélateur d'une nouvelle hygiène de vie, de choses qu'ils ont envie de changer, puis ça permet aussi aux personnes qui sont bénéficiaires de cette activité de se réapproprier aussi leurs soins, et ça c'est une nouvelle approche quoi, qui est en tout cas saluée par beaucoup de monde.
On fait un petit échauffement et puis on y va.
Ouais.
Par où ? On va se remettre en ligne. On va bien monter en levant les pieds, d'accord ? Donc l'idée c'est bien de pousser, jusqu'en haut de la plage. On lève bien les genoux et on pousse sur le pied au sol. Là, il faut qu'il déroule et que vous poussiez avec la pointe du pied, quoi.
Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, entre la prise d'un médicament qui est complémentaire de l'activité, hein, qui l'activité se substitue pas au médicament, mais entre la prise du médicament qui a un geste relativement passif, et puis tout d'un coup de s'engager dans l'activité et de décider que, bah oui, faire du sport, des fois, il faut se faire un peu violence, hein, quand il fait un peu plus frais, quand c'est un peu plus, bah oui, puis musculairement, pour eux, pour certains, c'est une vraie découverte et c'est un vrai engagement physique. Hein. Donc du coup, c'est vrai que bah, ils sont acteurs, ils ont vraiment l'impression que c'est eux qui travaillent pour aller mieux ou tout simplement parce que du coup ils socialisent aussi, hein. Pour certains c'est aussi le fait de ressortir un petit peu de chez soi au moment où la maladie les a peut-être un peu isolés, enfin voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, hein. Il y a l'estime de soi, je vous l'ai dit, la sociabilisation, il y a les constantes physiques, etc., qui bien sûr sont mesurées. Il y a pas mal d'études qui sont faites. On sait par exemple dans l'exemple du cancer du sein, pour les gens qui pratiquent une activité physique régulière, c'est 40% de chances de récidive en moins, donc c'est assez probant. Les études, elles continuent à être faites au fur et à mesure, et à chaque fois, c'est vrai qu'on montre que le sport adapté ou l'activité physique adaptée, c'est-à-dire adaptée à son état de santé et à ses capacités, est plutôt généralement bonne pour la santé.
C'est bon, Jean-Marc ? Allez, montez, messieurs. Allez, go ! C'est parti pour tout le monde !
J'adore cette rencontre. J'adore les rencontres que je peux avoir avec les gens qui suivent ces programmes. En fait, je les vois pas comme des gens malades, je les vois comme des sportifs. Et puis, je vais oser la comparaison. Pour moi, je redeviens un petit peu entraîneur, en fin de compte. Pour moi, c'est mes sportifs de haut niveau, alors qu'ils visent pas un podium, qui visent souvent des enjeux qui sont peut-être plus importants, en fin de compte, que de terminer devant quelqu'un d'autre. Voilà, ça nous ramène dans une société où j'ai l'impression qu'on cherche du sens. Là, il y en a plein, quoi. Il y a vraiment, c'est une activité avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Je préfère quand c'est pas moi qui le dis, mais je suis pas très objectif, mais oui, c'est une réussite. Franchement, tout ce qu'on mesure et puis regarder, échanger, regarder la tête des gens à la fin de la séance, oui, c'est une réussite, oui.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la DREAL et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
L'arène, c'est terminé. Une émission qui s'écoute du lundi au vendredi à 17h et à chaque fois le lendemain en rediffusion à 8h. Les podcasts, eux, sont à réécouter sur canalb.fr. Je vous dis à bientôt sur Canal B.